BW. Droits et libertés.
La pandémie de coronavirus aura eu de nombreux corollaires. De nombreuses personnes ont perdu leur emploi ou leur activité. Certains biens sont venus à manquer. Pour ne citer que quelques-uns des changements les plus visibles qu'il aurait été bien difficile de prévoir avant le mois de mars de cette année. Mais la fermeture des écoles à cause de la Covid-19 a mis aussi en lumière de grandes inégalités sociales. Nous en parlons cette semaine avec un reportage en Ouganda où les enfants les plus pauvres se sont mis à travailler faute de pouvoir aller en cours. Mais pour ceux qui ont la chance d'avoir retrouvé les bancs de l'école, on commence tout de suite par un éclairage sur la façon dont est enseigné le passé colonial au Nigeria. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Le troisième fleuve le plus long d'Afrique est le Niger. Est-ce que vous savez qui l'a découvert ? Eh bien, c'est un certain Mungo Park, un Écossais, et c'était en 1796. Il n'y a rien qui vous choque, là ? Si je vous dis que le fleuve Niger a été découvert par un Écossais à la fin du XVIIIe siècle, évidemment que c'est absurde et faux. C'est pourtant ce qu'on peut encore lire dans certains manuels nigérians. Faith Odili a même dû apprendre ça par cœur à l'école. Historienne de profession, elle rassemble des histoires sur le passé du Nigeria.
Qui a découvert le fleuve Niger ? C'est Mungo Park. Voilà ce que vous répétez au début. Mais au bout d'un moment, vous vous étonnez. Ah bon, le fleuve n'existait pas avant l'arrivée de Mungo Park ? Mais n'y avait-il pas des gens qui naviguaient sur ces eaux ? Qui pêchaient déjà dans le fleuve ? Alors pourquoi les Nigérians apprennent-ils à leurs enfants que c'est Mungo Park qui a découvert le Niger ?
Cet exemple n'est hélas pas le seul. Au Ghana, il existe un manuel de sciences sociales dans lequel on demande aux élèves quelles sont les répercussions positives de la colonisation. Et les réponses possibles sont, accrochez-vous bien, la construction d'écoles, l'introduction de la langue anglaise, l'accroissement de l'intérêt pour les produits venus de l'étranger ou bien le développement de villes. 60 ans après la fin officielle du colonialisme en Afrique, ça fait froid dans le dos, non ? Pour l'autrice Siyanda Mohutiwa du Botswana, les cours d'histoire se focalisent trop souvent sur l'après-indépendance. Alors pour mieux comprendre sa propre histoire à travers celle de son pays, Siyanda Mohutiwa a pris des cours en Setswana, langue officielle du Botswana.
Colonialism was called... Dans ma langue, le mot pour colonisation est le même que pour changement. C'est une façon super édulcorée de parler de la réalité. C'est comme si on essayait de gommer cette histoire, comme si quelqu'un avait décrété il y a une vingtaine d'années qu'il ne fallait pas l'enseigner. En fait, moi, j'ai très peu appris de choses racontées du point de vue de mon peuple.
En cours, Siyanda Mohutiwa a appris la concurrence que se livraient les grandes puissances européennes en Afrique à la fin du 19e siècle. Le point de vue de l'empereur allemand, celui de la couronne d'Angleterre.
L'école telle que nous la connaissons aujourd'hui a fait son apparition au milieu du XVIIIe siècle en Grande-Bretagne. Elle a coïncidé avec l'expansion coloniale. Le pouvoir a décidé d'inculquer aux enfants une version standardisée de l'histoire pour leur dire que coloniser d'autres pays, c'était normal. On leur apprenait ce qu'était un nègre, un peau rouge ou autre, parce que la Grande-Bretagne avait besoin de convaincre de la justesse de sa politique esclavagiste. Ils ont employé de nombreuses personnalités pour leur construire de toutes pièces, un récit basé sur la supériorité blanche. Et à un moment, ils se sont mis à faire l'école à ces négros, à ces gens qui n'avaient pas la peau blanche, et ils leur ont inculqué toutes ces hiérarchies. Imaginez l'effet que cette idéologie a fait une fois exportée.
So that's one thing. So now imagine what would happen if that mentality and that education is exported to the countries that are being colonized.
Faith Odili au Nigeria confirme les ravages de ces idées propagées durant plus d'un siècle aussi en Afrique. Pour comprendre son présent, dit-elle, il faut connaître son passé, sinon on reproduit des modèles inégalitaires sans les remettre en question. Quand Faith Odili était au lycée, c'était dans les années 1990, les cours d'histoire ne figuraient même pas au programme. D'après elle, il y a toute une génération de Nigérians qui ignorent donc tout ou presque du colonialisme. Et c'est pourquoi elle en veut maintenant aux autorités.
When we know our history.
Et si vous connaissez votre passé, vous sortez de votre obscurité. Or, les gouvernements n'ont pas intérêt à ce que les gens se réveillent. Ils doivent continuer à se percevoir comme pauvres. La pauvreté, ça s'instrumentalise. On peut faire miroiter plein de choses aux gens s'ils ne connaissent pas leur passé, si on ne leur dit pas qu'il y a eu des soulèvements dans l'histoire et des protestations à l'époque coloniale, si les gens ne savent même pas comment s'est formé le Nigeria. Les ignorants ne réclament rien au gouvernement.
If people do not even know about the formation of Nigeria, they cannot make some demands from the government.
Pour remettre les Africains au premier plan de leur propre histoire, le gouvernement kényan a annoncé en 2019 vouloir mettre en application des propositions formulées par l'UNESCO et reconstituer, je cite, « une histoire de l'Afrique libérée des clichés racistes issus de la traite négrière et de la colonisation » pour encourager l'émergence de points de vue africains. Fin de citation. Depuis 1964, plus de 230 historiens y travaillent ardemment. Nous en avons déjà parlé sur cette antenne et nous en reparlerons dans une émission ultérieure. Vous pouvez d'ailleurs à ce propos réécouter Pulsation, le magazine de la semaine dernière. Avant de clore ce chapitre quand même, pour partir en Ouganda, sachez que fin 2019, la ministre sud-africaine de l'éducation a rendu obligatoire les cours d'histoire africaine et sud-africaine jusqu'en 12e année, soit 3 ans de plus qu'auparavant. Au Botswana aussi, les choses changent petit à petit. Siyanda Mohutiwa se souvient que durant sa scolarité, tous ses profs étaient blancs. Aujourd'hui, son petit frère suit les cours de professeurs noirs et formé au Botswana. À ciel ouvert, dans un quartier périphérique de Kampala, des femmes et des enfants tentent d'arracher des pierres à la paroi, armées d'outils rudimentaires. Un jeune garçon met les blocs tombés par terre dans un conteneur en plastique, à main nue. Un des jeunes présents sur le chantier s'appelle Paul. Depuis que les écoles ont fermé à cause de la pandémie, eh bien il vient travailler ici tous les jours.
On n'avait rien à faire, alors on a commencé à gagner un peu d'argent ici.
Paul est le fils aîné d'Irene Anek, qui travaille depuis longtemps dans la carrière. Il y a des années, la famille a fui les violences des milices armées dans le nord de l'Ouganda. Depuis, elle essaie de joindre les deux bouts comme elle peut. Le travail physique dans la carrière lui rapporte moins d'un euro par jour.
L'argent suffit à peine à nous nourrir. Les prix sont trop élevés. On arrive à peine à survivre.
Environ 40% de la population ougandaise vit dans la pauvreté, alors même que sur le papier, la croissance du pays est stable et dépasse les 6%. De ce fait, il y a beaucoup de chantiers dans le pays. Or, les blocs de pierre exploités à la main sont un matériau peu onéreux. Les femmes et les enfants sont donc prêts à sacrifier leur santé pour gagner leur salaire de misère.
« Le pire, c'est qu'on a mal dans la poitrine, on a des problèmes à respirer, à cause de la poussière qu'on respire. Des fois, il y a des petits éclats de cailloux qui sautent dans nos yeux. Alors, on se tape par mégarde sur les doigts avec le marteau.
Les enfants se blessent encore plus souvent que les adultes, mais ça ne semble pas préoccuper beaucoup de gens en Ouganda. Au moins 3 millions d'enfants étaient déjà contraints de travailler dans le pays avant la pandémie de coronavirus, au lieu d'aller à l'école. Leur nombre a encore augmenté ces derniers mois, ce qui inquiète beaucoup les défenseurs des droits de l'homme, comme Mebra Pamwena, directrice d'une association locale de femmes.
Nos enfants gâchent leur avenir, ils ne vont plus rien apprendre. Si on envoie un enfant travailler quelques mois dans une carrière, il oublie tout ce qu'il avait appris à l'école.
Les écoles devraient commencer à rouvrir autour du 20 septembre, mais la rentrée a été repoussée plusieurs fois déjà par le président Museveni. Paul espère pouvoir retourner en classe, mais c'est cher, alors il met un peu d'argent de côté.
On fait des économies et quand le virus sera sous contrôle, on reprendra les cours, si on a assez d'argent pour les payer.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Antje Dick, Hans pour les sons d'Ouganda et à Zilia Fröhlich cette semaine. Pour podcaster Droits et Libertés, rendez-vous sur notre site internet www.com/français à la rubrique Nos podcasts. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, ne lâchez rien.